Platon, La République, œuvre pour l'oral du rattrapage du baccalauréat. Cours numéro 4, corrigé du questionnaire sur le livre 6, deuxième partie. Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va enchaîner après l'étude de la première partie dans le cours numéro 3. Il faut vraiment que vous ayez bien suivi ce cours-là pour pouvoir enchaîner sur ce questionnaire. Donc on va passer à la deuxième partie de cette fin de livre 6 de la République de Platon. Je vous laisse quelques secondes pour prendre votre matériel, pour ouvrir le corrigé image. Et c'est parti. J'avais commencé le cours précédent, le numéro 3, en insistant sur la notion d'analogie, très importante par rapport à l'ensemble de cet extrait de la République, parce qu'en fait, vous avez trois analogies successives. La première qu'on a étudiée donc au cours numéro 3, c'était l'analogie du soleil et du bien, sachant que une analogie consiste à établir une comparaison de rapports du type A état B, ce que c'est état D. Il s'agissait pour Socrate d'expliquer ce qu'était l'idée du bien et ce qu'elle représentait par rapport à toutes les idées du monde intelligible en utilisant la comparaison avec ce qu'est le soleil pour le monde visible. Donc l'idée du bien est pour le monde intelligible ce que le soleil est pour le monde visible, c'est-à-dire que c'est à la fois un principe producteur des choses, en l'occurrence des idées, et un principe de connaissance. C'est ce qui permet la connaissance des choses de la même manière que le soleil à la fois fait pousser les choses de la nature, mais est également ce qui permet de voir ces choses de la nature. Dans cette seconde partie de la fin du livre 6, nous allons avoir une deuxième analogie. C'est l'analogie qu'on a l'habitude d'appeler la ligne de la connaissance. Donc, pour expliquer ce qu'est la connaissance et surtout les différents stades de la connaissance et quel est le progrès de la connaissance possible pour l'être humain, Socrate va prendre l'image d'une ligne coupée en plusieurs segments. Donc, ça va être la deuxième analogie. Et ensuite, dans le dernier cours, le cours numéro 5, on reparlera de la troisième grande analogie, l'allégorie de la caverne. On va prendre donc le texte, vous pouvez regarder sur la diapo numéro 3 ou sur votre document texte de la fin du livre 6 et du début du livre 7. La première partie de cet extrait, je l'ai intitulé Le monde visible et l'opinion. La deuxième partie, ce sera le monde intelligible et la science. Je commence par lire. Conçois donc qu'ils sont deux, le bien et le soleil. L'un est roi du monde intelligible, l'autre du monde visible. Je ne dis pas du ciel, de peur que tu ne croies qu'à l'occasion de ce mot, je veux faire une équivoque. Voilà par conséquent deux espèces d'êtres, les uns visibles, les autres intelligibles. Alors, Socrate part ici des acquis de ce qui précédait. Il a fait l'analogie du bien et du soleil. Ça lui permet ici d'introduire une distinction entre deux mondes, le monde visible et le monde intelligible. Pour essayer de vous faire comprendre un petit peu ça, j'ai essayé de prendre moi-même une forme d'analogie. Nous avons une réalité chez Platon qui est composée de plusieurs dimensions et de deux grandes dimensions. La dimension sensible des choses que je perçois par les sens, la dimension visible, audible, ce que je connais par le goût ou par le toucher, du monde qui m'entoure. Par là, je ne connais que des êtres qui sont des êtres de la nature et qui sont périssables, qui naissent et qui périssent. Mais il y a pour ces êtres visibles en fait une autre dimension, la dimension intelligible. Je ne fais pas que voir ou toucher mon ordinateur, je peux aussi penser, connaître mon ordinateur sur le mode intelligible, un peu comme si mon intelligence était un sixième sens qui était seul capable de voir cette dimension. Et dans cette dimension, il n'y a pas mon ordinateur en tant que tel, il y a l'idée d'ordinateur. Et mon ordinateur à moi, comme votre ordinateur à vous, participe de cette même idée d'ordinateur qui, elle, est éternelle et qui peut être définie et dont la définition ne changera pas. Le monde intelligible, le monde des idées, c'est un monde où les choses existent de toute éternité. Donc, vous voyez comment ici la distinction des deux facettes de la réalité, le monde sensible et le monde intelligible, ça produit une distinction entre deux types de choses, deux types d'êtres, les êtres intelligibles et les êtres sensibles, les êtres de la nature qui sont des êtres périssables et les êtres du monde intelligible qui sont des êtres éternels. Les idées, chez Platon, sont éternelles. C'est d'ailleurs pour cette raison que tous les êtres intelligents peuvent s'accorder sur la connaissance du monde intelligible, alors que c'est beaucoup plus difficile par rapport au monde sensible. Nous ne pouvons pas vraiment avoir la même expérience des choses que notre voisin, mais par contre, nous pouvons avoir la même connaissance de leurs facettes intelligibles. Bon, donc là, en fait, je viens de répondre à la question A, où je vous demandais, on est à la diapo numéro 4, je vous demandais ligne 50 à 54, Socrate opère ce qu'on appelle en philosophie une distinction ontologique, c'est-à-dire qu'il distingue différents types d'êtres qui ne sont pas de même nature. Quelle est cette distinction ontologique? Et essayer de définir la spécificité de chacun de ces êtres. Alors en fait, je crois que vous n'avez pas pu répondre à cette question parce que il y a eu un petit problème dans mon questionnaire. Mais donc, on va y répondre. Enfin, je vais le répéter rapidement par rapport à ce que je viens de dire. Il y a d'une part des êtres visibles et plus généralement sensibles. Ce sont ceux qui naissent et périssent et qui sont accessibles à la sensation et à l'expérience sensible. Ces êtres, ils sont de même nature que le corps qui les sent. Et d'autre part, il y a ces êtres intelligibles, les idées, qui sont connues par l'intelligence, qui sont éternelles et immuables. Et chez Platon, en l'occurrence, l'âme qui connaît ces idées, en fait, elle est elle-même de la même nature que ces idées et elle est elle aussi, pour Platon, c'est son côté métaphysico-religieux, elle est aussi éternelle, l'âme. Et vous voyez que cette distinction produit une première hiérarchie, puisqu'il y a plus de valeur à l'éternel qu'au périssable. Donc, chez Platon, il n'y a pas simplement une distinction des types d'êtres, mais une hiérarchie des types d'êtres. Les êtres sensibles sont plus bas dans la hiérarchie, moins réels, moins parfaits que les idées dont ils participent dans le monde intelligible. Petit aparté, je n'arrête pas d'utiliser le verbe « participer à » ou « participer de quelque chose » depuis le début des cours spécifiques sur le texte. Alors ça, c'est du vocabulaire typiquement platonicien qu'on utilise pour parler du rapport entre le sensible et l'intelligible chez Platon. Quand on, en général, dans le sens courant, quand on participe à, ça veut dire qu'on fait partie d'eux. Il faut imaginer que les idées du monde intelligible, c'est un peu un genre de club. Et en tant qu'être sensible, vous allez un peu être membre de ce club. Vous allez appartenir à cette catégorie. C'est-à-dire que si vous êtes un ordinateur, vous allez appartenir à la catégorie des ordinateurs qui elle-même appartient à la catégorie des machines artificielles fabriquées par l'homme, qui elle-même appartient aux machines de type intelligent, qui ont des capacités de calcul, donc aux intelligences artificielles. Bref, vous participez comme ça en tant qu'individu à plusieurs idées. Si vous êtes un homme, hein, vous participez à l'idée d'animal, mais vous participez aussi de l'idée être pourvu de raison, ce qui va permettre de vous définir comme un animal rationnel, par exemple. Bon, j'essaye de vous clarifier ça le mieux que je peux. J'espère que ça va. On va passer à une petite question facile. B, ligne 55-56, quelle image prend Socrate pour faire comprendre à Glaucon la différence et la hiérarchie entre les différents types d'êtres? Cette image va être l'image d'une ligne. Alors, je vous conseille maintenant d'aller sur la page de blog qui est consacrée au mythe de la caverne. Ou sur la page de blog qui est consacrée là à ce début de livre 7, fin de livre 6, pour voir le schéma de la ligne de la connaissance, qu'on appelle la ligne de la connaissance. Alors il va y avoir en fait, cette ligne, ça va être à la fois une ligne des différents types d'êtres, et à chaque type d'être correspond un type de connaissance. Donc, vous avez une espèce de double gradation, gradation dans les types d'êtres, gradation dans les types de connaissances. Et donc, on pourrait jusqu'à présent considérer que cette ligne, elle est seulement coupée en deux, le monde intelligible avec les êtres intelligibles et le monde sensible avec les êtres sensibles. En fait, Socrate va ajouter, ligne 57 à 58, c'est ma question C, il va ajouter une distinction. À cette première distinction, en fait, il va recouper chacun des segments, des deux segments de la ligne en deux, et ça va nous donner quatre segments, et donc quatre types d'êtres différents. Je reviens à ma diapo numéro 3 et à mon texte. Je reprends à partir de la ligne 55, soit par exemple une ligne coupée en deux parties inégales. Coupe encore en deux chacune de ces deux parties qui représentent l'une le monde visible, l'autre le monde intelligible. Et ces deux sections nouvelles représentant la partie claire et la partie obscure de chacun de ces mondes, tu auras pour l'une des sections du monde visible les images. J'entends par images premièrement les ombres, ensuite les fantômes représentés dans les eaux et sur la surface des corps opaques, polis et brillants, et toutes les autres représentations du même genre. On a donc au début de ce paragraphe cette fameuse ligne, d'abord coupée en deux, puis encore coupée en deux, donc coupée en quatre. Et à la fin du paragraphe, la première des sections est définie, c'est la section qui correspond dans le monde visible aux images. On vient donc de répondre, diapo numéro 5, à la question D. Ligne 59 à 62, à quoi correspond le premier segment de la ligne? Prenez un exemple. Là, ici, on a vu que Socrate faisait une énumération des différents types d'images naturelles existantes. Les images ombres, les images reflets dans l'eau, tout ça, c'est des projections qu'on va retrouver classiquement dans la nature. Il y a évidemment d'autres types d'images qui vont être des images artificielles produites par les hommes. Les photographies, par exemple, sont des images des choses et les vidéos que vous pouvez regarder sur YouTube, si vous regardez bien toutes vos connaissances du monde, il y en a énormément, c'est peut-être même la majeure partie de nos connaissances, qui nous viennent d'images projetées, soit naturellement, soit artificiellement, et surtout artificiellement, sur des écrans. Donc, dans ma réponse à la question D, je vous ai donné l'exemple d'une photo d'éléphant. J'ai choisi l'éléphant parce que c'est un animal que nous connaissons, mais que généralement nous n'avons pas rencontré en vrai, en réalité, dont nous n'avons pas vraiment l'expérience, ou même si on a vu un éléphant dans un zoo, on en a une expérience qui est très très minimale. Moi, je n'ai jamais vu d'éléphant. Ce que je connais de l'éléphant, je ne le connais que à travers des documentaires, des photos, des articles de presse, des choses qu'on m'a racontées et qu'on m'a racontées souvent en utilisant des images. Mais évidemment, à l'époque de Platon, les images étaient moins fréquentes ou moins faciles à créer. Aujourd'hui, on peut très facilement faire des photos. Ça n'était pas le cas il y a 30 ans et ça n'était sûrement pas le cas il y a 2500 ans. Donc, parmi les images des choses, on peut aussi penser aux discours à ce qui est créé par les histoires, par ce qu'on raconte et qui anime l'imagination. Si on me raconte comment est un éléphant, quelle est sa taille, comment il est constitué, à ce moment-là, je pourrais me faire une image dans ma tête de l'éléphant. Donc ça, c'est pour le premier segment de la ligne. Question E, je vous demande évidemment les lignes 64 à 65, alors celles-là on ne les a pas lues, à quoi correspond le deuxième segment de la ligne? Pourquoi les êtres du premier segment sont-ils inférieurs à ceux du deuxième segment? Je vous laisse relire le passage en question, ligne 64-65. En fait, le deuxième segment, c'est les choses sensibles elles-mêmes. Le premier segment, ce sont l'image de ces choses. Le deuxième segment, donc, c'est la chose en tant que telle. Et cette fois-ci, j'y ai accès non par des images, mais j'y ai accès directement par la sensation dans mon expérience. Si je travaille dans un zoo avec des éléphants, si je suis vétérinaire, si je suis soigneur d'animaux, à ce moment-là, je vais avoir une expérience directe de cet animal et je ne le connaîtrai donc plus simplement par des images, mais aussi par ma propre expérience. Deuxième partie de la question, je vous demandais pourquoi les êtres du premier segment sont inférieurs à ceux du deuxième segment. Eh bien, ça paraît assez évident, puisque les images ne sont que, au mieux, des aspects partiels des choses, au pire, des transformations, des choses ressemblantes, mais trompeuse qui en fait transforme la chose elle-même. Si j'ai une photo d'éléphant et qu'il n'y a pas dans le contexte de la photo beaucoup d'éléments qui me permettent d'évaluer sa taille, je peux me tromper sur sa taille. Pire, si l'image de l'éléphant que j'ai, c'est seulement son ombre, je ne sais strictement rien de sa couleur, des composants de son visage, etc., etc. La seule donnée que j'ai, c'est éventuellement sa forme et en fonction de la taille de l'ombre, je peux me faire une idée complètement fausse de la taille réelle de cet éléphant. Bref, j'ai une meilleure connaissance des choses lorsque j'ai sur elles des informations tirées de mon expérience sensible. Cependant, cette expérience peut être aussi également trompeuse. On avait vu ça avec Descartes. Nos sens, ils nous trompent aussi de temps en temps et on ne peut pas toujours leur faire confiance. Et puis, notre expérience, elle reste toujours très parcellaire. J'ai peut-être l'expérience d'un éléphant parce que je le soigne dans un zoo, mais est-ce que ça me donne une véritable idée de ce que sont les éléphants? Est-ce que je ne risque pas de faire une généralisation abusive? Dans le zoo, mon éléphant, il n'est pas du tout dans son état naturel, donc peut-être qu'il ne se comporte pas de la même manière qu'il se comporterait dans la nature. Et donc, il y a des éléments peut-être de caractère que je ne peux pas généraliser et que je vais pourtant avoir tendance à généraliser. Et là, eh bien, je risque de commettre une erreur par rapport à l'idée d'éléphant. Et l'idée d'éléphant, évidemment, là, ça fait partie du monde intelligible. C'est la raison pour laquelle Platon appellera cette connaissance issue de l'expérience directe des choses une croyance. Même en ayant une expérience directe, je suis dans la croyance. Pensez à saint Thomas quand il dit je ne crois que ce que je vois. Eh bien, il ne croit pas si bien dire, puisque même en attendant d'avoir une expérience directe des choses par lui-même et de ne pas s'en tenir aux images qu'on lui présente, malgré tout, cette expérience directe ne lui donne jamais que de la croyance, c'est-à-dire une adhésion subjective à la vérité qui ne repose pas sur des fondements scientifiques de cette même vérité. Alors, ces deux types de connaissances, la connaissance par image et la croyance qui repose sur l'expérience sensible, Socrate les place dans la même grande catégorie de l'opinion. Dans les deux cas, il s'agit d'opinion. Et à la question F, qui est à la diapo numéro 6, je vous demande, donc ligne 67 à 68, pourquoi l'opinion est-elle un mode inférieur de la connaissance? Pourquoi est-elle comparable à ce qu'est l'image d'un objet? Alors, si dans les deux cas, connaissance par image et connaissance par l'expérience, on est dans l'opinion pour Platon et Socrate, c'est que dans les deux cas, la connaissance n'a pas de fondement assez solide. Donc, on ne peut se faire que des opinions. Alors, c'est assez évident pour les images. Les images des choses, elles sont souvent trompeuses. Et c'est pourquoi l'opinion que nous nous faisons à partir de ces images, eh bien, elle est généralement fausse. Mais même pour celui qui a l'expérience, donc là, je reprends mon exemple soigneur d'animaux, le risque, c'est de faire des généralités et donc de passer à une connaissance intelligible, mais sur la seule base de l'expérience qui est toujours partielle, qui est toujours mouvante, qui se fait sur l'observation de choses périssables. Le processus qui est du coup ici utilisé, c'est ce qu'on appelle l'induction. L'induction, c'est quand je pars de cas particuliers et que j'en tire une idée générale. Et en utilisant uniquement des expériences partielles, on risque de faire ce qu'on appelle une généralisation abusive, qui est un mauvais usage de l'induction. Si je vais à New York et que je croise un New-Yorkais désagréable et que je croise un deuxième New-Yorkais désagréable, si jamais je dis au bout de 10 minutes que les New-Yorkais sont désagréables, certes, je me base sur mon expérience, mais mon expérience étant très partielle, je fais une généralisation abusive. Bon, j'ai bien insisté là-dessus, donc j'espère que c'est à peu près clair. Et on va maintenant passer donc à la deuxième partie de la deuxième grande partie de la ligne, et c'est la deuxième partie de notre texte, où il sera question non plus du monde sensible et de l'opinion, mais du monde intelligible et de la science. Alors clairement, c'est sûrement l'une des parties les plus difficiles de notre texte. Ici, donc, on va parler de la deuxième partie de la ligne. On est dans le domaine des intelligibles. Et encore une fois, on va avoir une division en deux de ces idées. En gros, les êtres intelligibles, c'est les idées. Quelle que soit l'idée, toutes les idées sont des êtres intelligibles. L'idée de triangle est une idée intelligible, est un être intelligible. L'idée d'éléphant est un être intelligible. L'idée d'être humain est une idée, un être intelligible. Mon ordinateur a une idée à laquelle il appartient. Donc, toutes les idées, tout ce que nous avons à présent à l'esprit et qui est un objet de connaissance intellectuelle, c'est un être intelligible pour Platon. Ça a une réalité en dehors de notre esprit. Pour Platon, Socrate, on ne se fait pas des idées. On ne crée pas les idées à partir de notre expérience. Ça, c'est une grande spécificité de Platon qui va le distinguer d'Aristote, hein. Ce n'est pas notre esprit qui crée les idées. Notre esprit, il a la capacité de voir ces réalités. Hein, j'utilise le terme « voir », mais il a la capacité de saisir ces réalités qui sont extérieures à lui. Et comme ces réalités appartiennent certes à un monde différent du monde sensible, sans en être complètement déconnecté, puisque toutes les choses sensibles appartiennent à des idées, participent d'une idée, par conséquent, il n'y a pas de rupture complète entre le sensible et l'intelligible. On peut accéder à l'intelligible en utilisant le sensible, mais d'une manière très spécifique, par une démarche que que Socrate ici va mettre en valeur et qui correspond à la démarche du premier segment de la ligne. C'est la démarche qu'on appelle aujourd'hui hypothético-déductive, c'est-à-dire que je fais une hypothèse générale qui me permet de déduire des conclusions sur les cas particuliers, et là je peux vérifier en effet dans mon expérience éventuellement si ça colle, si ça colle bien. Si ça ne colle pas, bon, une hypothèse n'est pas juste.